France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon. La gastronomie commence d'abord par le terroir. Le terroir donne un goût particulier au produit.
Le beurre et la crème sont les deux données de base de la cuisine dans cette région.
C'est la crème et encore de la crème et toujours de la crème.
On a tout sauf la vigne. Mais si on faisait le tour des produits, il nous manque absolument rien. Et en plus, on a un climat qui pour certains est défavorable, mais qui pour l'ensemble de ces produits est très très favorable.
On possède le label Ville Créative UNESCO en matière de gastronomie.
Le canard à la rouennaise.
Avec de super chefs partout dans la ville. Bref, venez à Rouen.
Allô Janine, annule pas Rouen.
Mais non, rassurez-vous, on n'annule pas Rouen. On est bien là, à Rouen, à la Chapelle Corneille, auditorium de Normandie, devant un public chaud bouillant. Bonjour à toutes et tous.
Waouh, quel accueil.
Merci Rouen. Merci beaucoup. Comme on est heureux de faire partie du France Inter Tour qui passe donc par la capitale de la Normandie. On va célébrer ensemble la gastronomie normande et rouennaise avec nos trois invités. Linda Jumel, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Vous êtes un des nouveaux talents qui s'exprime sur la scène gastronomique rouennaise. Vous êtes d'origine réunionnaise,
tout
au fourneau d'un restaurant dont je vous laisse citer le nom.
C'est le restaurant Léla.
Absolument, Léla, votre cuisine, on va le voir, est un passionnant métissage entre la Réunion et la Normandie. Et vous allez nous faire goûter le plus gourmand des bonbon piment pour ceux et celles qui savent ce que c'est dans ce plateau. Moi personnellement j'adore ça, j'ai eu la chance d'en goûter sur place. Vous nous rappelez hein, l'adresse de votre restaurant?
37 rue Saint-Étienne des Tonneliers à Rouen.
Absolument, et vous avez un beau succès depuis 2022 dans les bons restaurants de Rouen, à commencer par le vôtre Linda. Il y a un nom qui revient tout le temps, c'est celui de Édouard Stalin. Bonjour.
Bonjour.
Vous tenez Édouard avec votre compagne, Louise Desfontaines, elle est par ici. Hein.
Ouais, elle est juste là.
Elle lève la main.
Ouais.
Salut Louise. Vous tenez la ferme des Ruffaux, c'est à Bouquetot, à une trentaine de minutes à l'ouest de Rouen, en direction de Pont-Audemer, dans le département de l'Eure, c'est bien ça?
C'est exactement ça.
Et vous avez bâti ce que vous appelez un verger maraîcher.
Ouais, ce qu'on appelle un verger maraîcher, et ce que plein de gens appellent et nomment des vergers maraîchers, parce qu'il y en a partout, mais ouais.
Et ben vous allez nous raconter justement cet étonnant écosystème que vous avez monté, c'est absolument incroyable, son histoire est belle. Et enfin, allez, le gastronome le plus célèbre de la ville, Bruno Berteuil, bonjour.
Bonjour.
Monsieur est agrégé d'histoire-géographie.
Oui, c'est vrai.
Ah, voilà, il voulait pas que je le dise, il est trop modeste. Vous enseignez le cinéma au lycée Pierre Corneille juste à côté?
Juste à côté, voilà, oui.
Et votre passe-temps, on va dire, c'est la gastronomie, hein?
Oui, c'est ça, c'est plus qu'un violon dingue, c'est peut-être une contrebasse dingue.
C'est ça, absolument. Voilà. Vous avez écrit plusieurs livres sur le beurre, le canard, la cuisine normande. Vous tenez aussi la chronique Tous à table, hein ?
Exactement, dans le Paris Normandie.
Et vous nous avez apporté un sacré panier gourmand que vous allez nous faire déguster. On en est absolument ravis. Ils sont du voyage et ils croquent Rouen avec moi, mes compagnons fidèles, Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Salut les copains !
Bonjour à toutes et tous !
Bonjour à tous !
Elvira !
Je vais vous parler d'un livre tellement bien fait que je l'ai dévoré, alors que le sujet n'est pas nécessairement dévorable. Il s'agit de l'agroécologie, assez technique.
Très intéressant à travers un livre passionnant. Et Jérôme ?
Jean Lefebvre dit « Je lui trouve un goût de pomme ».
Ah !
Et Maître Folas lui répond « Il y en a ».
Ah ! Il va être question donc de pommes avec Jérôme. Amis auditeurs, retrouvez tous nos podcasts et tous nos contenus, recettes, adresses, infos pratiques, dont un carnet d'adresses gourmandes très fournies autour de Rouen et la Normandie sur radiofrance.fr à la page On va déguster. Allez, on croque Rouen par tous les bouts et tous les goûts.
France Inter, François-Régis Baudry, On va déguster.
On va tout de suite, chers amis, vous montrer ce que la ville de Rouen a dans le ventre. J'ai demandé, pour attaquer cette émission, à chacun de nos trois invités, un petit coup de cœur comestible. Et on va commencer avec Édouard Stalin, qui aujourd'hui appuie sur le champignon.
Ben oui, à fond. En fait, c'est un ami d'enfance. Donc ça, quand même, ça tient au cœur. Ancien informaticien. Et en gros, après une reconversion, il a repris une champignonnière troglodyte à Déville-lès-Rouen. Donc là, voilà, on est vraiment dans l'aglo. Ça s'appelle Champi en scène. Donc, c'est les champis de Jean-Phi. Mais voilà, j'ai le droit de l'appeler Jean-Phi. Moi, c'est
Jean-Philippe Belmer. Hein.
Exactement, Jean-Philippe Belmer. Il fait du champignon de Paris, une petite dédicace en Normandie.
Et ouais, ça existe. Ouais,
donc ça, c'est assez trippant, mais on s'amuse pas mal avec toutes les variétés. C'est magnifique ce qu'il fait. On peut le retrouver, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, sur le marché de Biorel.
On va vous mettre toutes les infos sur la page internet de l'émission.
Et voilà, il vient aussi des fois chez nous au Grand Petit Marché et il alimente aussi certains restaurants avec ses champignons.
Waouh, il paraît qu'il est en bio et qu'il fait aussi des pleurotes et des shiitakes.
Exactement.
Qui connaît dans la salle les champis en scène?
Ah, énorme.
Je vous laisse... il y a quand même des mains qui se lèvent. Hein.
Mais maintenant, il y a plein d'autres gens qui connaissent.
Champis en scène, je vous laisse imaginer l'orthographe de scène. Hein.
Ouais, non, mais tout à fait.
On parle d'un fleuve, je crois bien.
Exactement.
Est-ce que Linda Jumel, vous utilisez ces champignons?
Je n'ai pas eu encore l'occasion de l'utiliser, mais par contre, je l'ai goûté quand je suis allée voir Edouard dans sa ferme pour acheter mes légumes, en fait.
Et voilà, parce que ici, effectivement, il y a des liens qui se tissent entre tous les producteurs. Et en préparant cette émission, on s'est rendu compte à quel point le territoire était vivant et vivace en termes de bons produits. Et ça fait vraiment plaisir à voir.
La Normandie, elle est riche, diverse et variée. Elle est très grande aussi. Et en fait, moi, j'ai pas mal de réseaux de copains et j'ai un lien capillaire très fort, tu vois, avec pas mal de monde.
Bon, et il a des dreadlocks sur la tête, hein, faut le préciser.
Et donc ça tisse pas mal de choses.
Absolument. Et on va continuer à le voir avec vous, évidemment, cher Edouard. Linda Jumel, on s'éloigne un peu de Rouen avec une célèbre maison normande que vous souhaitiez mentionner et dont vous utilisez en cuisine les produits laitiers.
À tout à l'effet, je travaille avec la ferme Borgnambuc. C'est une ferme, en fait, qui a son exploitation et élevage de vaches. C'est des vaches laitières avec une qualité de lait qui est extraordinaire. Et ça me permet de vraiment jouer avec ces produits très, très riches et qualitatifs dans ma cuisine fusion, île de la Réunion, Normandie.
Alors, un exemple de plat qui utiliserait comme ça, soit un beau beurre cru de Barat ou une crème crue fermière de la maison Borgnambuc.
Eh ben, quand je fais mon canard avec le beurre blanc vanille, que vous avez goûté hier soir.
Quel régal.
Voilà.
On va en parler, mais effectivement, le canard à la vanille, c'est à l'origine vraiment une grande spécialité emblématique de la Réunion, ce gros bout de France au cœur de l'océan Indien. On peut d'ailleurs rendre hommage à une femme qu'on a rencontrée, Eva Hannibal, qui a inventé cette recette de canard à la vanille. Et vous le réinterprétez dans votre restaurant.
Exactement. Donc en fait, le canard est un produit phare à la Réunion et en Normandie. Et donc, il a fallu que je trouve une fusion. Et donc, le beurre blanc vanille, c'était... idéal pour rendre hommage à Madame Hannibal, parce que moi, sur une ancienne carte, j'avais fait le canard à la vanille type ragoût, très typique réunionnais, et dans le cadre de la fusion, et ben là, j'ai travaillé un beurre blanc avec le beurre de Barat de la ferme de Borgnambuc, et du coup, ça a donné quelque chose d'assez sympa.
On salue la maison Borgnambuc, c'est la crème de la crème, et leur camion réfrigéré. On les voit qui sillonnent la Normandie, mais on les voit aussi dans les rues de Paris, parce qu'il y a un paquet de restaurants qui réclament leur beurre, et leur crème, et leur fromage frais. Voilà, ma maison Borgnambuc à Fort-Mauville, dans l'heure. Bruno Berteuil, avec vous on finit en douceur ce tour de table. Alors d'abord, juste avant que vous révéliez de quoi il s'agit, on va parler d'une douceur évidemment, qui pourrait me donner la définition précise d'un mirliton? Allez, on lève la main. Madame, comment vous vous prénommez ?
Aline.
Bonjour Aline.
C'est un gâteau rouennais. C'est un petit gâteau qui est fabriqué notamment par la boulangerie Cressan. C'est excellent. C'est bourré de beurre, d'abord et de sucre.
Bien, ben voilà. Bravo pour cette définition. Mais au départ, en faisant nos recherches, peut-être que vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, mais au départ, le mirliton, c'était autre chose et ça donnait ça.
C'est un instrument.
Et oui, c'était un petit instrument avant qui déforme la voix et le son et qui donne ce timbre un peu ridicule, nasillard, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans sa version pâtissière, paraît-il au début, mais peut-être que Bruno va nous le confirmer, c'est un petit gâteau en forme de cylindre ou de barquette qui était justement un peu l'interprétation comestible de cet instrument de musique.
Oui, c'est ça, le cylindre, en fait, il est resté hein, d'ailleurs dans le mirliton de Pont-Audemer, parce qu'il y a deux mirlitons en Normandie, le mirliton de Pont-Audemer qui est resté cylindrique, et le mirliton de Rouen qui était plutôt sous forme d'une tartelette.
Et celui de Pont-Audemer est évidemment meilleur.
Non.
Ah, pardon. Je plaisante, c'était de la provocation. Et vous nous avez apporté lequel? Parce qu'il y en a un qui joue très très bien du mirliton à Rouen.
C'est Christophe Cressan, oui, donc meilleur ouvrier de France, Christophe. Donc il a voulu remettre au goût du jour ce mirliton, parce que c'est vrai qu'il y a des régions, en Bordeaux, il y a le cannelé qui est resté. Nous, en Normandie, on avait oublié ça. et c'était le dessert très connu au-delà de Rouen, puisqu'on le faisait même à Paris, en référence à Rouen, au 19e siècle. C'est un dessert qui a disparu au début du 20e siècle et il fallait le remettre au goût du jour. C'est un dessert qui comprend du sucre et de la crème. Et Grémaud de la Reynière, qui était un grand, grand critique gastronomique.
L'almanach des gourmands, hein.
L'almanach des gourmands.
Début du 19e siècle.
À partir de, oui, de 1904. Et dans le numéro de 1912, il parle du mirliton de Rouen en défendant la supériorité du mirliton de Rouen grâce à la crème de Sotteville. Sotteville des Rouen, crème qui a totalement disparu, qui était une crème liquide. Grémaud de la Reynière expliquait que c'était la meilleure crème du monde.
Voilà. Il a sûrement raison, mais alors je viens de mettre un croque dans ce mirliton. C'est en forme de petit palais comme ça, c'est délicieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Elvira ?
C'est absolument délicieux. On est entre le financier et une texture plus dense, un peu type clafoutis. Il y a quoi ? Il y a de l'œuf ?
Alors exactement. L'appareil à mirliton est un appareil qui s'apprenait encore dans les CAP pâtisserie jusque dans les années 80. C'est un appareil à flan, en fait, sans fécule, œuf et crème, une crème liquide. Et dans lequel, là, dans cette version-là, on ajoutait de l'amande.
Quel régal, franchement. Ouais. Et il est signé Christophe Cressan, qui est en plus meilleur ouvrier de France. Ça, c'est un des grands artisans de bouche de la ville, dont Rouen peut être fier. Merci beaucoup. Et puis, on l'a dit, le mirliton de Ponteau de Mer, mais ça, c'est promis, la guerre du mirliton n'aura pas lieu dans cette émission.
Non, pas du tout.
Dans un instant, on poursuit notre voyage dans le ventre de Rouen et de la Normandie. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission en public ici à Rouen. Fabrice Rivaud m'a aidé à l'organiser et à la préparer. Merci aux équipes techniques de France Inter, Alexandre Martin, Benjamin Thuot, Alexandre James et Jérôme Casamayou, et notre chargé de production Nicolas Boucard. On se retrouve juste après Sauvage Continent de Stéphane Escher. Bienvenue à la table de Rouen sur France Inter.
Mais comment deviner, comment savoir quoi faire? Quelle grimace inventée, quel fichu inventeur. Mais comment deviner le mal qu'on peut se faire? Quel feu avait couvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent. Mais comment deviner qui ira en enfer, ou qui paiera le prix, qui paiera le plus cher? C'est la mélancolie, les avis diffèrent. Certains voient tout en gris, certains dieux viennent amers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? On éteint pas la lumière qui un jour brillait. On ne peut rien y faire. Mais comment deviner que nous serions en guerre, qu'il faudrait se quitter, ne plus revenir en arrière? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent. Quel terrible univers. Qu'avais-tu découvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent.
Saviez-vous, amis rouennais, rouennaises, que votre ville, Rouen, est première et seule ville française à avoir intégré le prestigieux réseau UNESCO, ville créative dans le domaine de la gastronomie? C'était en novembre 2021. C'est quand même un sacré exploit. Et il y en a un qui a été l'un des artisans de cette victoire, qui a beaucoup contribué à la promotion de la ville de Rouen. C'est vous, Bruno Bertheuil?
Oui, on a lancé le projet avec quelques personnes, c'était important. Ce label-là est un label qui souligne la mise en réseau en fait, des acteurs. Et effectivement, bah, ici, il y en a trois, enfin oui, il y en a surtout deux autour de la table. Moi, je ne suis qu'un spectateur de ces acteurs, mais c'est à la fois des réseaux de gens qui vont fournir de quoi alimenter les restaurants, mais pas que les restaurants aussi, parce que ça va aussi sur les cantines municipales de Rouen, qui sont en bio, en grande partie en bio, qui sont en circuit court. Donc, il y a un énorme travail qui est mené là-dessus. Et tous les acteurs, la formation. On est à l'ENBP ici, on a le Centre National, l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie, qui est l'école internationale d'ailleurs.
Ville créative dans le domaine de la gastronomie à l'UNESCO, rien que ça, une belle victoire qui scelle la réputation gastronomique de la ville, parce que historiquement, ça c'est sûr, quand vous lisez tous les traités, les récits autour de la gastronomie française, Rouen est définitivement une ville de mangeurs et de connaisseurs.
Oui, c'est ça, c'est une ville. Alors, les gens qui ont travaillé notamment sur le 19e siècle montrent bien que la bourgeoisie rouennaise investit dans la nourriture. Il y a beaucoup de restaurants, mais il y a aussi beaucoup de magasins, de commerces qui vont donner. Et dès le 19e siècle, on trouve des produits exotiques, et c'est grâce au port. C'est grâce au port, on a des ananas, on a des bananes. Alors, sur les bananes, Rouen était même jusqu'à la fin des années 30 le premier port bananier de France. C'est bizarre, mais c'est comme ça, voilà. Et on ne sait pas la route la plus près des Antilles, mais bon.
Il y a même des amateurs de vin à Rouen, de grands gastronomes, parce que le vin arrivait aussi par la Seine.
Exactement, c'était le port des vins d'Algérie, certes, mais le port aussi. Et dès le Moyen-Âge, on constate d'ailleurs du commerce, des vins de Bordeaux qui arrivent ici à Rouen. Donc c'est un grand port aussi sur le vin. Enfin, c'était un espace d'échange important.
Et vous me disiez que la gastronomie rouennaise et plus généralement la gastronomie normande était davantage une gastronomie de très bons produits, avec un terroir exceptionnel, sans doute l'un des plus riches de France, plus qu'une gastronomie de recettes.
Oui, c'est ça. On est moins dans une gastronomie de recettes, à la différence de ce qu'on va avoir en Provence et tout ça. On a quelques recettes locales, on en parlera forcément, peut-être, évidemment, comme le canard à la presse, mais on a surtout une gastronomie de produits. Et c'est ce qu'on retrouve toujours aujourd'hui. C'est qu'on a à la fois un terroir riche, et un miroir, parce que j'aime bien aussi parler de miroir, les huîtres ici, à quelques kilomètres, enfin à 40 kilomètres, les huîtres de Vol-les-Roses, le dernier miroir des huîtres en Normandie. La Normandie est quand même le premier producteur d'huîtres en France, n'oublions pas, et le premier producteur de bulots, même si c'est plutôt dans la Normandie du Sud, comme on dirait aujourd'hui.
Avec ce bel IGP, hein.
Exactement, c'est les sols, et puis aussi sur les huîtres. Donc on a ce miroir-là, on a le terroir qui continue d'être un terroir très, très actif, avec forcément des gens comme Édouard, mais il n'est pas le seul, et heureusement qu'il n'est pas le seul. On trouve aussi bien des très bons escargots, des lentilles, on a des légumineux, on a tout ce qu'on veut ici.
Il y a pourtant un revers de la médaille, tout n'est pas rose, à Rouen, hein, il faut bien le dire. Vous êtes d'ailleurs certainement aux premières loges de cette scène gastronomique locale, qui n'est pas, sans faire offense à personne, la plus dynamique de France. Il y a même comme une petite érosion de la gastronomie qu'on dit étoilée, cette haute cuisine qui en général peut faire la réputation d'une ville. Les restaurants étoilés au guide Michelin rendent leurs étoiles les uns après les autres à Rouen. Que se passe-t-il, Bruno Bertheuil?
Mais je ne sais pas exactement. Alors, Gilles.
Alors, Gilles, là, vous évoquez un grand établissement qui a fait la réputation de Rouen. On allait chez Gilles. Gilles Tournade.
Deux étoiles, deux macarons. Et Gilles a rendu ses étoiles il y a quelques années pour revenir sur une cuisine, non pas forcément plus simple, mais en même temps pas obligé de travailler sur des produits les plus nobles. Donc on a heureusement encore Olivier Da Silva, Olivier et Suzanne Da Silva à l'Audace,
bien sûr,
qui sont étoilés, et d'autres ont rendu leurs étoiles. Benjamin Le Chevalier aussi avait rendu ses étoiles. C'est qu'il n'y a pas que les étoiles qui comptent. On a nombreux restaurants, donc Linda en fait partie, mais je pense à la Galerie, je pense à Paul Arthur, je pense à Philippe, je pense à plein d'autres restaurants comme ça, qui sont encore bien notés, dans le Goemio par exemple, et qui constituent tout un réseau de jeunes cuisiniers, alors plus récemment aussi, enfin de jeunes cuisiniers et de moins jeunes, le Tempo par exemple, ou l'Épicurius.
Un tissu très dynamique de jeunes tables engagés qui incarnent le renouveau de la gastronomie rouennaise. Vous en êtes un illustre exemple, Linda Jumel, même si vous êtes une pièce rapportée à Rouen.
Oui, je suis, on peut parler de pièce rapportée, mais en fait, je suis en effet réunionnaise, c'est mon île natale, mais Rouen, c'est ma terre d'adoption. Donc forcément, je fais dialoguer les épices avec les produits du terroir normand. Et ça, c'est hyper intéressant pour pouvoir proposer une cuisine fusion, une cuisine de voyage, où on va arriver, on va trouver le côté exotique avec les recettes traditionnelles de la Réunion, mais aussi associé à ces beaux produits normands qui se trouvent sur notre terroir. On a une telle richesse, comme disait Bruno, qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est un vrai terrain de jeu pour moi, en tout cas.
Qui connaît dans la salle le restaurant Léla? Ah là, il y a des mains qui se lèvent, ça fait plaisir. Les, elle, e, accent aigu. La, plus loin, elle, a, accent grave. Alors ça, c'est une expression créole qui signifie...
Alors, Léla, ça veut dire, en fait, c'est très identitaire. Déjà, le slogan de La Réunion, c'est La Réunion, Léla. Et quand on dit, comment allez-vous, Léla, ça veut dire que ça va, on est de bonne humeur, tout va bien. Mais la Normandie, Léla aussi. Donc, c'est très géographique, c'est très présent et ça devient très identitaire pour moi. Donc, Léla, ça correspond aux deux terroirs pour moi.
Et on a eu la chance en équipe de s'attabler chez Léla hier soir. On a vraiment fait une expérience réjouissante,
oui,
une véritable évasion. Dans les inspirations créoles, réunionnaises, avec quasiment exclusivement, et c'est ça qui est fort, des produits normands. Donc c'est vraiment la Réunion, sans jeu de mots,
oui.
De la Réunion et de Rouen, on peut dire que pour vous, la gastronomie, ça prend deux airs. Hein.
Exactement.
Réunion et Rouen, qu'est-ce que vous en avez pensé, Elvira et Jérôme ?
Ah ben on s'est régalé, non, Jérôme ?
Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup. Alors, j'aime la cuisine assez relevée, j'avais un petit supplément piment qui était absolument remarquable.
Avec des piments, je crois, qui viennent d'ailleurs de la ferme des Ruffaux, hein, n'est-ce pas,
oui,
Edouard ?
Oui, il y en a certains, ouais, habanero, entre autres.
Piment habanero.
Il est très bon, votre piment habanero, Edouard, je peux vous dire que j'en ai abusé hier. J'ai trouvé ça très juste, très savoureux et généreux. C'était une soirée qui était pleine de générosité, d'entrain et d'allant.
On a attaqué avec les bonbons piments, les acras, les samosas, les nems. On a recommandé des assiettes parce qu'on avait déjà tout bouloté. Et c'était vraiment plein de goût, plein de texture. Vraiment un régal, quoi.
Ouais.
Ah, c'était...
On recommande chaudement l'adresse.
C'était vraiment génial. Et Elvira les a cités. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps parce qu'on va faire goûter. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui est dispo pour venir monter sur cette scène? Ah, salut.
Merci.
Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Manon.
On peut vous demander votre âge?
Oui, j'ai 17 ans.
Et vous êtes de Rouen?
Oui, c'est ça.
Vous aimez manger?
J'adore manger.
Eh bien, prenez place, Manon. Vous allez goûter quelque chose, on n'en dit pas plus. Est-ce que vous pourriez décrire cet objet comestible pour ceux qui n'ont pas l'image à la maison? Il y en a beaucoup.
Il est de forme circulaire, on va dire.
Bravo.
Comme un donut. Je
sais pas si c'est vrai, il y a un petit trou au milieu.
Et ça a l'air excellent.
Eh bien, c'est parti. Pas trop de problèmes avec le piment, j'espère. Ah, elle change de couleur. Elle devient aussi rouge que le panneau France Inter qu'il y a derrière elle.
Non, franchement, c'est excellent. C'est assez relevé, mais j'ai l'habitude, donc ça va. Et franchement, oui, c'est très très bon.
Qu'est-ce que c'est, Manon, à votre avis ?
Des céréales, je pense.
On n'est pas loin. Alors, on est plus dans le registre de la légumineuse, mais c'est végétal.
Bah, du piment, du coup. Beaucoup de piment, même.
Ah, ça commence à chauffer, oui.
Oui, ça commence à chauffer, effectivement.
Il y a des épices, vous aimez bien ?
Oui, j'adore. Franchement, c'est super bon. Je ne connaissais pas votre restaurant. Personnellement, je préfère vous l'avouer. Mais j'irai volontiers, très souvent même.
Voilà, ben, donc, la bonne nouvelle. Merci, Manon. Une future critique gastronomique.
Merci.
Alors, résultat des jeux. Manon a croqué quoi ?
Alors, Manon a croqué un bonbon piment qui est fait avec un produit du terroir normand. En fait, j'ai pris des pois chiches noirs de la ferme de Millépy dans l'Eure. Je cherchais une légumineuse qui était similaire au pois de Cap pour faire nos bonbons piments à La Réunion. Et c'est très difficile de trouver ces produits spécialisés en Normandie. J'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé cette ferme. Et les pois chiches noirs m'ont tout de suite interpellée. Et j'ai travaillé donc ce pois chiche noir à la méthode réunionnaise pour faire mon bonbon piment. Et les pois chiches ont une profondeur au niveau du goût. C'est plus soyeux. On peut facilement façonner le bonbon piment. Et quand on évite l'intérieur pour faire le petit trou, l'huile passe bien et on a le côté très croustillant et le côté moelleux à l'intérieur avec un visuel un peu plus foncé. Mais ça donne vraiment un bonbon piment un peu fusion, mais qui rappelle vraiment ce que j'ai eu dans mon enfance avec mes grand-mères.
Et le bonbon piment, faut-il le rappeler, c'est cette bouchée réunionnaise que moi j'aime bien qualifier de cousin éloigné du falafel, c'est-à-dire une bouchée faite à partir de légumineuses concassées. Alors dans le falafel, c'est le pois chiche ou ça peut être la fève en Syrie. Et à La Réunion, effectivement, grande tradition de légumes secs, de légumineuses, qu'on appelle d'ailleurs là-bas les grains.
Les grains, oui. En fait, les grains, ça se sert à tous les repas, avec tous les caries. Ça peut être des lentilles, des fèves, des pois chiches.
Riz et grains, c'est le combo gagnant. Hein.
Voilà.
C'était un régal. Et vous avez d'ailleurs la recette sur la page internet de l'émission, les bonbons piments de Linda Jumel du restaurant Léla. On s'est vraiment régalé. Alors, on va tenter un accord super acrobatique avec le monsieur qui est à ma droite, qui d'habitude s'occupe du vin, mais là, il a troqué les raisins contre la pomme.
On va déguster
sur France Inter.
Alors Jérôme Gagnès, tout va bien ?
Oui, tout va très très bien.
Vous êtes tombé dans les pommes ?
Je suis tombé dans les pommes, je suis tombé dans le bonbon au piment de Linda. On va effectivement essayer un accord assez audacieux. Alors comme le disait Paul Wolfoni, alias Jean Lefebvre, dans Les Tontons Flingueurs, je lui trouve un goût de pomme. Et Francis Blanche lui répond, alias Maître Folas, évidemment, il y en a. En effet, il y en a de la pomme. Il y en a de la pomme dans le pommeau.
Ah, vive le pommeau.
Vive le pommeau de Normandie. Alors, il y a un pommeau du Maine aussi, hein, il faut le savoir. Il y a une AOC, pommeau du Maine.
On connaît pas.
Non, il est moins intéressant.
Ça, j'en doute pas une seule seconde. On verra ce qu'on dira quand on sera à Laval. Mais pour l'instant, on est à Rouen. Donc, c'est le pommeau de Normandie qui est le meilleur. C'est assez récent. Le pommeau, d'une façon générale, en fait, c'est une histoire qui est plutôt récente d'un point de vue officiel et administratif, et c'est une histoire qui est ancienne d'un point de vue historique et de tradition locale. Dès lors que la distillation a été mise au point, en fait, très rapidement, on s'est mis à distiller tout un tas de choses, et dans les fermes, on distillait, donc ça faisait du calvados, et puis on a eu l'idée aussi, à un moment, de muter le jus de pomme avec du calvados. Ça permettait de conserver le jus de pomme et d'avoir une boisson qui était certes alcoolisée, mais qui avait aussi beaucoup de sucre. Donc muter, ça ne veut pas dire une mutation, ça veut dire rendre muet. Quand on ajoute de l'alcool dans un liquide avec du sucre, en l'espèce du jus de pomme, eh bien l'alcool va inhiber, bactériser levure, ce qui fait que la fermentation ne va pas se faire. Donc on va conserver l'ensemble des sucres qui sont présents dans le dit jus de pomme. Et ça va former une boisson qui fait en gros entre 15 et 20 degrés d'alcool. Il y a un tiers de calvados pour deux tiers de jus de pomme. Et ça donne naissance à ce qu'on appellera plus tard le pommeau. Qu'on appelait, alors là je parle sous votre surveillance, mais en gros on appelait ça souvent pinot normand, en référence au pinot des Charentes, qui est exactement le même principe, sauf que ça se fait avec du jus de raisin et du cognac. Les producteurs souhaitent, dans les années 30, ils veulent faire reconnaître cette production et puis éventuellement la commercialiser. Il y a un décret en 1935 qui interdit la commercialisation d'apéritifs à base de cidre. Donc, ça met un coup de frein brutal, évidemment. Et il faudra attendre assez longtemps, les années 70, pour que la commercialisation du pommeau soit autorisée. Et in fine, 1991, pour qu'il y ait une AOC pommeau de Normandie. Donc, ça a été assez long. Ça a été assez long à reconnaître, à être reconnu, mais c'est bel et bien quelque chose qui est profondément ancré dans le terroir normand, dans le pays de Caux, dans le pays de Bray, puisque c'est un prolongement très naturel, quand on a des pommes, de faire à la fois du cidre, de distiller ce cidre et d'en faire du calvados, et puis en même temps aussi, on a des jus de pommes, on a des pommes, et on va pouvoir muter ce jus de pomme et en faire cet apéritif. Alors on dit que c'est un apéritif, on le boit quand on veut, on fait bien ce qu'on veut. On peut le boire à l'apéritif, bien sûr, mais on peut le boire aussi, évidemment, en fin de repas. Moi, j'aime beaucoup le pommeau sur un fromage un peu puissant, sur un dessert. J'aime beaucoup le pommeau, par exemple, aussi sur des plats sucrés-salés. Et on en vient à Linda. J'ai dans mon assiette, là... Ah oui, je suis un peu en avance sur l'émission.
Mais allez-y, faites votre émission, Jérôme.
Je déflore. Oui, moi j'aimerais qu'on me foute un peu la paix maintenant. Ça commence à bien faire. Donc, on a un magnifique...
Achard
de légumes. Alors moi, j'en ai un peu spécial.
Oui. Achard de légumes, définition s'il vous plaît, Linda.
Achard de légumes, en fait, on est sur une julienne de légumes. D'ailleurs, c'est les légumes que j'ai pris à la ferme des Ruffaut avec Édouard.
Bouclé.
Voilà. Alors là, il y a des carottes. On a mis des potimarrons, mais Édouard va détailler les potimarrons.
On a mis des potimarrons japonais. Greenwich d'Hokkaido, le souhait vert d'Hokkaido.
Vous pouvez nous le montrer là ?
Et toc, 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 il est
alors,
ici.
Vous êtes en train de me dire que dans les achats, il est en julienne crue, en bâtonnet cru ?
On en a parlé tous les deux. Ben ouais, en fait, on peut manger la courge crue, râpée crue, c'est excellent. Vous trompez vos invités, ils vont penser manger de la carotte et c'est de la courge.
Voilà.
Mixer aussi en tout petit. Vous me faites ça dans un boulgour revisité, c'est génialissime. Et après, on a un autre potimarron japonais qui date du XVIIe siècle. Tu vois, je prends ta place un peu d'historien. Et il s'appelle Fuzu Black.
Il est plus petit, il est côtelé.
Ouais. Bah en fait, c'est que les gros, on les a déjà vendus. Hein.
Ah.
Et alors, pareil, on va pas se voiler la face pour venir jusqu'ici. J'ai pris les petits gabarits, comme ça, c'est plus facile à se trimballer dans Rouen.
Hein. Bah, évidemment, sachant que, petite parenthèse, des courges, vous en cultivez un paquet, puisque je crois qu'il y a 19 variétés dans votre potager.
Il y a 19 variétés de courges, ouais.
Wow.
On s'amuse avec toutes les variétés. Sur les pommes, on en fait 12. Mais voilà, restons là, du coup, sur le plat de Linda.
Vive les cucurbitacées. Alors donc, les achats de légumes qui mélangent, on l'a compris, tous les légumes d'Edouard Stalin.
Les légumes en julienne, et on fait une
une petite vinaigrette exotique avec du gingembre, de l'ail, et j'ai mis beaucoup de piment pour Jérôme, parce que c'était important.
Alors, comment ça se passe,
alors,
Jérôme? J'aime...
Alors, bah, il klaxonne sévèrement, hein, la chère. J'aime autant vous dire...
Il va pas pouvoir
faire ça. C'est moins le malin, là.
J'aime autant vous dire qu'il réveille un mort. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça, le piment, vous le savez. C'est comme une addiction.
Et ce matin, en fait, j'ai vraiment repilé du piment pour redonner un coup de force au hachard.
Ça va, Jérôme?
Ben, c'est la meilleure solution pour le faire taire. Donnez-lui un peu de hachard.
Et du coup, si t'as mis de l'habanero, c'est niveau 7 sur l'échelle de Scoville. Et pour l'anecdote, en fait, là, Louise, elle les a ressemés cette semaine, les prochains piments. Donc on sème déjà en ce moment, on a semé les premières tomates et les premiers piments. Prenez le temps de manger, prenez le temps de savourer ce petit picotement, parce qu'il y en a eu du taf derrière.
Et ben voilà, mais alors il prend le temps. Et est-ce que ça n'écrase pas trop un piment un petit peu vicieux, le pommeau, qui est
alors,
une boisson délicate?
Justement, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire à cette antenne, le piment, c'est comme des pics. Hein, c'est très piquant. Et le pommeau, il a de l'alcool d'une part et du sucre d'autre part. Il a beaucoup de sucre, hein, mine de rien. Donc, en fait, ça vient encapuchonner ces pics, ça vient les arrondir. Et ça fait un très, très joli accord. L'achat de légumes avec le pommeau est absolument remarquable. Alors, je vais quand même vous citer le pommeau dont je vous parle parce qu'il est très, très, très bon, ce pommeau. Il est exceptionnel, ce pommeau. Il vient du domaine Duclos-Fougeray, d'Aurélie Buquet. Et on a deux pommeaux ici. J'ai le pommeau traditionnel, qui s'appelle l'original, un tiers calvados, deux tiers jus de pomme, qui vieillit 3 ans en fût, relativement long, ça permet, et c'est ça l'essentiel en fait. Le vieillissement dans le pommeau, c'est l'essentiel parce que, évidemment, la qualité du jus de pomme et de l'eau de vie, mais ça permet une fusion parfaite entre l'eau de vie et le jus de pomme, et ça permet donc de ne pas avoir quelque chose de dissocié. D'un côté, la sucrosité du jus de pomme, de l'autre côté, le feu de l'alcool de l'eau de vie. Et puis, il y a une autre cuvée que je vais vous faire goûter un peu plus tard dans l'émission, qui s'appelle Exquise. Elle est vieillie 10 ans en fût de chêne, c'est très long, et ça donne un pommeau résolument différent dans sa texture, dans son aromatique, avec quelque chose de plus puissant, de plus dense, de plus structuré aussi, puisque Aurélie Buquet utilise des pommes avec plus de matière phénolique dans le pommeau qui a 10 ans pour lui assurer un meilleur vieillissement en fût. Je vous recommande donc très, très chaleureusement les deux pommeaux du domaine Duclos-Fougeray. C'est à Saint-Michel-d'Alécourt, à 50 km au nord-est de Rouen, presque à la frontière avec l'Oise. Un très beau produit du pays de Bray. Vous trouverez toutes les informations sur la page de l'émission.
Dans un instant, Bruno Berteuil, vous débouchez une cuvée de cidre que vous adorez.
Oui.
Vous êtes prêts?
Ah bah ça va.
Préparez votre poignet et on va se régaler.
Together, oh, baby, we
cook, we share love et on partage notre amour de la cuisine avec les Rouennais et les Rouennaises. Merci d'être là.
On va déguster François-Régis Gaudry sur France Inter.
On dresse le couvert à Rouen dans cette exceptionnelle chapelle Corneille. C'est certainement l'un des plus beaux lieux qui nous ait été donné à voir pendant cette émission franchement spectaculaire. Et Bruno Berteuil, vous nous promettiez un petit coup de cœur liquide. Alors on passe du pommeau de Jérôme Gagnès à votre cidre, et pas n'importe lequel.
Non, non, c'est un cidre du petit clos normand.
Oh,
magnifique.
Ça, c'est du pop. Alors racontez-nous ce cidre.
Alors, c'est le petit clos normand, c'est l'exploitation de François-Xavier Craquelin. Alors, François-Xavier Craquelin, on le connaît pour multiples casquettes, toujours autour de la gastronomie, puisque c'est lui qui, avec ce cidre-là, nourrit ses bœufs sur les 4 derniers mois d'engraissage. Alors, c'est saisonnier, donc il n'y en a plus en ce moment.
C'est ce qu'on appelle le bœuf cidré ?
Exactement, le bœuf cidré. En fait, il est parti d'une idée toute simple. Hein, les Japonais, avec le waigu, font du Kobe. Et donc, en Normandie, pourquoi pas, on n'a pas de bière, mais on a... Enfin, on a de la bière, comme partout en France, mais on a surtout du cidre. Voilà, il en fait 16, 20 par an, pas plus. C'est un produit rare, c'est un produit saisonnier, c'est un produit exceptionnel. Le bœuf cidré, enfin, c'est qu'on a un persillé magnifique, hein, qui vraiment nous rappelle le bœuf de Kobe.
Waouh. Et on est où exactement avec ce cidre, le petit clos normand ?
Alors, on est à Villequier, un Villequier qui est connu des Normands pour être l'endroit où Victor Hugo y avait sa résidence. Lui, il est un peu sur les hauteurs. Maintenant, ça s'appelle Rive-en-Seine. Et François-Xavier a aussi réintroduit la culture de la moutarde.
Ah, génial !
La moutarde qui
j'ai entendu parler de ce bonhomme incroyable.
Avec Christophe, quoi. Avec Christophe de l'Auberge d'Erwin, un super pote, quoi. Étoile verte au Michelin. Hein.
Absolument.
Et ouais.
Et donc, une moutarde, c'est pas facile. Il y avait une vraie tradition de culture de moutarde en Normandie.
Oui, il y avait une grande tradition de culture de moutarde. Alors, j'en ai amené une, si on veut goûter, d'un autre producteur, puisqu'on a 3 producteurs de moutarde ici en Normandie maintenant.
Piment, moutarde, décidément, c'est une émission relevée. Qu'est-ce qu'on pense de ce cidre des deux côtés, Linda, vous aimez ?
J'adore. Je pense que ça pourrait se marier facilement avec un de mes plats au niveau du restaurant.
Oui, il est sec, avec des jolis tanins.
Oui, tout à fait. Donc ça pourrait aussi être mis avec un poisson facilement. Je fais une belle dorade. Je pense que je vais vraiment le mettre à la carte.
Waouh. Alors, vous qui adorez le cidre...
Oui, moi j'adore le cidre et j'aime beaucoup ce cidre. Il est relevé, il a du corps, il a de la structure, il est parfaitement équilibré et ça va très très bien avec l'andouille qui nous a été servie.
Mais de quoi s'agit-il ? Je ne savais pas. Attendez, excusez-moi, pour moi l'andouille c'est soit Guémené en Bretagne, soit c'est Vire dans le Calvados, en Normandie, mais c'est pas Rouen.
Alors, il y a eu une tradition d'andouille de Rouen qui a un peu disparu, mais là, c'est donc l'andouille de la charcuterie du Houssel que les Rouennais connaissent bien tous les samedis et dimanches matins sur le marché du Clos Saint-Marc. Donc un très très beau marché de Rouen, on a plein de producteurs, donc c'est un marché, le samedi encore plus de producteurs que le dimanche, et donc ils sont là, c'est un charcutier qui travaille avec des porcs qui sont élevés à la farine d'orge, donc très bien élevés. Et donc, ils ont une tradition du fumage et tout ça. Alors, l'andouille de Rouen était une tradition, puisque dans Madame Bovary, au repas de mariage, est servie une andouille de Rouen. Enfin, c'est pas précisé qu'elle est de Rouen, mais avec Flaubert, qui était élève juste au lycée, qui était ici, hein. Forcément, c'était une andouille de Rouen servie avec de l'oseille. Il y avait une tradition de l'andouille à l'oseille. Mmh. Et c'était de l'andouille à cuire, comme on trouve encore du côté de Vire, ces grandes andouilles qu'on met dessalées et qu'on laisse cuire dans un bouillon aromatique, qui sont absolument délicieuses, qu'on trouve à Vire. La tradition s'est perdue ici à Rouen, mais on a encore des charcutiers qui font d'excellentes andouilles, et celle-là en fait partie.
Et je dois préciser que vous avez été très généreux, Bruno Berteuil, d'abord dans les produits que vous nous apportez, que vous nous faites goûter, mais également dans le carnet d'adresses que vous avez écrit spécialement pour nous. Plein de très belles adresses, de vos coups de cœur comestibles à retrouver sur la page internet de l'émission. Il y a notamment des adresses que vous nous avez indiquées ou dégustées, parce que c'est évidemment... Plein d'auditeurs nous ont écrit quand ils ont su qu'on venait à Rouen. Peut-on encore trouver un ou plusieurs lieux pour déguster le fameux canard à la rouennaise ?
Oui, bien évidemment. Alors là, j'ai 2 coups de cœur particulièrement. Alors un qui est Thierry de Mauger. Alors Thierry de Mauger, on le connaît ici tous les 3 bien, puisqu'il fait partie de l'association des toques rouennaises. Peut-être qu'on peut citer l'association des toques rouennaises.
Il faut la citer, il faut
bien sûr.
Citer, hein. Merci l'Office de tourisme. Hein.
Puisque Edouard en fait partie, Linda en fait partie, et puis...
Christophe en fait partie.
Christophe en fait partie, et je les accompagne sur des manifestations et tout ça, comme récemment au mois d'octobre. Et Thierry de Mauger, le restaurant Les Capucines. Et chose très importante, j'y tiens, puisque c'est le seul endroit où on aura une maîtresse canardière, Elodie, qui va presser le canard devant vous.
Sachant que c'est le fameux canard à la rouennaise qui a évidemment inspiré Frédéric Delaire, le fameux maître d'hôtel de la Tour d'Argent à Paris, et qui a donné en fait une réputation mondiale au canard à la rouennaise, sauf qu'entre-temps il s'est appelé canard à la presse ou canard au sang, mais ça reste évidemment d'origine rouennaise. Édouard Stalin, pas de canard quand même dans votre ferme?
Non. Alors j'en ai eu, parce que j'ai essayé énormément de choses depuis maintenant 14 ans. On fait énormément de diversité, on a une vie pleine, belle, extrêmement bien remplie, mais du coup pas de canard, non.
Vous êtes où exactement?
On est à Bouquetot, 27 310, donc nous on est de l'autre côté de l'eau,
dans
c'est l'expression d'ici, voilà, on est dans l'Eure, mais j'ai grandi entre le Pays de Caux et le plateau du Roumois, exactement là où on s'en trouve. La ferme des Ruffaut, j'ai démarré il y a 14 ans, 15 ans, en partant non pas de rien, mais d'un champ de blé. Et aujourd'hui il y a 200 arbres fruitiers, des pommiers, donc on a du jus de pomme, d'ailleurs mon père, que je salue bien, fait du pommeau, et des variétés anciennes, des variétés d'ici, la pomme revers, la pomme de l'abbé Revers, hein, qui vient de l'estuaire de la Seine, la Bayeule Gros Hôpital. Pff, c'est une pomme géniale, elle vient de Saint-Aubin-de-Routot, créée en 1866 d'un pépin spontané. C'est la pomme du Pays de Bray, du Pays de Caux. Elle est énorme, enfin bref. Et surtout, avant tout, en fait, on est des maraîchers. Un verger maraîcher, mais on devrait plutôt dire des maraîchers, enfin un maraîcher verger, parce qu'on fait avant tout des légumes. Et vu qu'on adore l'excitation intellectuelle, eh ben, on fait énormément de déclinaisons sur chaque espèce. 12 variétés de pommes. Ouais, 19 variétés de courges, 52 variétés de tomates, et on les reproduit.
Ils ont de la chance, les Rouennais.
On les reproduit et on les sélectionne depuis maintenant 10 ans, donc c'est des graines acclimatées au terroir normand. Donc, le terroir, terme technique, c'est un contexte pédoclimatique. Pédo, c'est le sol et le climat. Ici, on a un sol hyper riche. Mon prof d'agronomie me le disait, monsieur Stalin, en Normandie, il n'y a que la terre qui est intelligente. Oh.
Et vous, vous avez en plus réussi non seulement à la rendre intelligente, mais à la rendre particulièrement vivante, grouillante de vie.
Exactement, on fait partie d'une asso, d'une structure qui s'appelle aussi maraîchage sur sol vivant. Donc en fait, on a un sol vivant, on a un système sol-air qui doit être vivant, si on veut s'approcher de ce qu'on appelle du climax, une sorte d'équilibre écologique. C'est un chemin en soi. Mais en gros, on a une ferme aujourd'hui, donc on est heureux de le dire avec Louise parce qu'on y va corps, cœur et âme, hein. On bosse. C'est pas cuit-cuit les petits oiseaux, même si on en a 120 espèces.
Ah oui, parce qu'en plus, il a compté avec la LPO, Ligue de protection des oiseaux, toutes les espèces de passereaux qui viennent participer, en fait, à l'écosystème.
Ouais, et qui vont et qui viennent. Ils sont pas tous nicheurs, ils sont pas tous tout le temps là, sinon ce serait un Capharnaüm. Mais en gros, on a une ferme aujourd'hui qui est agronomiquement viable parce qu'on a remonté les taux de matière organique. Pour les agronomes, on est à 4,5% de matière organique, donc c'est génial. Du coup, on a une fertilité. On nourrit ce sol avec des composts, on nourrit ce sol avec les feuilles des arbres, on en reparlera, c'est l'agroforesterie, des termes un peu techniques et tout, mais on en parlera avec le livre d'Elvira. On a une ferme donc agronomiquement viable, écologiquement viable. On l'a abordé avec les oiseaux, 120 espèces d'oiseaux, 5 variétés de chauves-souris, les chiroptères, si ça parle à certaines et à certains, qui sont des super prédateurs parce qu'ils ont un éco-sonar. Là, franchement, la performance technologique du vivant. Mais comme disait Poulvord, mon Dieu, que la nature est bien faite. Comme la nature est bien faite, il disait. Et après, on est économiquement viable.
Ah, et ça, c'est important. Et c'est justement pour ça aussi que vous n'êtes pas cuit-cuit, les petits oiseaux.
Ben ouais.
Car vous êtes gagnant sur tous les terrains, y compris en prouvant qu'avec cette agriculture extensive, respectueuse du vivant, eh bien, vous vous en sortez bien économiquement. Vous pouvez réinvestir aussi dans votre ferme.
C'est ce qu'on fait. En fait, aujourd'hui, donc ça parlera aux comptables, on a 51% d'EBE, d'excédent brut d'exploitation, un terme un peu technique. Et en gros, on réinvestit dans la structure parce que une structure, une entreprise agricole... Alors autrefois, on utilisait le terme exploitant agricole. Waouh, moi, c'est un terme qui me... Oh, je peux le dire, qui me débecte.
Mais oui, parce que exploitant, on exploite.
Si quelqu'un me dit un jour qu'on t'a exploité, waouh, je serais offusqué, je sauterais sur la table, quoi. Donc non, on n'exploite pas, on cultive. Agriculteur, cultiver, c'est s'élever.
Mmh.
On s'entretient, on s'élève. Donc en gros, nous, on est des agriculteurs, donc agronomiquement viables, écologiquement viables et économiquement viables.
Et accessible, puisque Édouard Stalin, précisons que vous fournissez de très nombreux restaurants, notamment les Toques Rouennaises, à Rouen et dans sa région, mais vous fournissez également des AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne.
Exactement.
Et puis par ailleurs, alors là, c'est plutôt... un peu plus tard dans la saison, il y a la vente à la ferme. Hein.
Et oui.
Notamment pour ces dizaines de variétés de tomates.
Ouais, alors elles arrivent, les variétés anciennes, qu'on soit bien d'accord, elles arrivent fin juin, première quinzaine de juillet. D'ailleurs, tout à l'heure on parlait des piments, mais Louise a semé les premières variétés là, précoces de Quimper, Tigirella et Matina. en variété ancienne. Donc ça y est, elles sont déjà semées, mais il va falloir attendre. Slow life. Elles vont arriver fin juin, début juillet. Donc, vente à la ferme à partir du mois de mai. Et là, on invite les gens à venir jusqu'à nous. Comme ça, ils vont voir, ils vont sentir, ils vont goûter. Et ils peuvent se balader dans la ferme et s'offrir le temps de se balader, parce qu'on ne peut pas prendre le temps. Le temps, c'est une donnée non palpable. Par contre, on peut s'offrir des moments.
Il n'est pas passionnant, quand même, Edouard Stalin. Et je dois même vous confier une petite chose. Nous avons été mis, il y a plusieurs années,
oui,
en contact. On n'arrête pas d'échanger.
Ouais.
On échange par SMS.
On échange,
on se donne des nouvelles. Et c'est notre ami Xavier Mathias, du potager, qui nous a mis et qui nous a dit « Ah, vous, je pense que vous avez des choses à vous raconter. »
Oui,
voilà.
Xavier...
Et le paradoxe, c'est que je ne suis jamais venu chez vous.
Mais en fait, on a essayé.
Mais on a essayé, mais je vais venir.
Et en fait, à chaque fois que tu voulais venir, nous, on n'était pas là.
Voilà.
Wow,
là... On s'est loupé, mais on va se retrouver. Et merci beaucoup pour ce discours. Alors justement... La transition écologique, vous allez réagir évidemment, Edouard Stalin, c'est la question, le sujet que soulève Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Un livre, Elvira Masson, sur la transition écologique. Un livre qui a attiré votre attention et dont vous nous recommandez la lecture.
Absolument. Le livre dont je vous parle s'ouvre par une scène qui se joue au Salon de l'Agriculture en 2019. Cédric Rabani, agronome, voyageur, est en direct sur le plateau de France Inter dans l'émission La Terre au Carré. Moment de panique. Il vient de me demander, est-ce que l'agriculture biologique peut nourrir le monde ? Est-ce que je vous pose une colle, Cédric Rabani ? Ajoute Mathieu Vidard. Et là, pas du tout loquace comme Edouard, mon voisin de gauche. Kéblo, erreur 404. Dans la vraie vie, la question se pose pas comme ça. Et pendant ce temps-là, le représentant de la FNSEA déroule ses arguments. Nourrir la France, panier de la ménagère, terre à blé. Et Cédric Rabani, je suis trop nulle, je me suis fait allumer. Ils ont peut-être raison après tout. Ils n'ont pas raison. Mais à la question « Comment nourrir le monde sans détruire la planète ?», sa réponse est complexe, multiple, fruit d'années d'expérience sur le terrain, à la rencontre d'autres systèmes agricoles, qu'il nous permet, nous, à notre tour, de rencontrer au fil des pages de ce formidable récit graphique qui s'appelle, c'est pas simple à prononcer, Lost in Transition Agroécologique. En librairie dans quelques jours, le 6 février, je suis un tout petit peu en avance, aux éditions Nourriture Fût. Alors on l'a compris, Cédric Rabani est plein d'autodérision, tout en étant très pédagogique, jamais en surplomb, sans angélisme, et il nous embarque avec lui loin. On part en Ouganda, dans la seule plantation de thé et café bio de toute la région. Une ferme agroforestière, des arbres partout, répartis par strates. Regardez le post-it où j'ai écrit Ouganda. Vous allez voir, c'est trop beau. De haut en bas, on voit des arbres forestiers. Puis, en dessous, des arbres fruitiers, avocats, agrumes. Puis des bananiers, puis des arbustes, caféiers, théiers. Et enfin, des plantes couvre-sol et des sols magnifiques, vivants. Il y a 20 ans, il n'y avait pas un arbre. Enfin voilà, il faut attendre 20 ans. On part ailleurs au Burundi, le pays où l'auteur a le mieux mangé grâce à une remarquable production maraîchère. Il nous montre des fermes en polyculture hyper nourricière. On part beaucoup moins loin, dans le Beaujolais, chez Frédéric Berne. Vous le connaissez, Jérôme ?
Oui.
Château des Vergers,
oui.
Viticulteur en bio, lui aussi en agroforesterie, qui nous fait une petite leçon de compréhension de la fertilité des sols, chimique, physique, biologique. Vous le connaissez aussi ?
Et la vitiforesterie, ça s'appelle comme ça. C'est énorme.
On croise des personnes engagées en France, ailleurs, qui ont eu le courage... ou la folie, je ne sais pas, ou en tout cas l'audace, et qui donne foi en l'avenir et justement en l'audace, comme Benoît et Méril, agriculteurs en Bresse à Plaine de l'Ain. Ils font du pois chiche, lentilles, colza en bio, avec des bonnes rotations, des associations de culture, ça fonctionne. Et aussi le bon équipement. Et puis quelques vaches qui servent à restaurer les sols, à produire de l'engrais entre autres. Je ne peux pas tout vous raconter tellement ce livre est foisonnant, c'est un voyage... de classe, presque, ou un cours de SVT avec un prof absolument passionnant et trop sympa. Les rencontres qu'il fait en chemin, on a l'impression qu'elles se jouent en simultané sous nos yeux, grâce à son ton, bien sûr, à ses propos simples, mais aussi au personnage qu'il a imaginé, un compagnon de route qui est un ver de terre malicieux, et grâce aussi, mais vraiment tellement, au coup de crayon de couleur, tellement frais et doux et joli, de César Canet, génial dessinateur. Alors, bravo à eux. Et bravo à
avec
celles
un côté,
et ceux.
Crayon de couleur.
C'est ça, c'est vraiment un coup de crayon d'une fraîcheur.
Ouais.
Et bravo aussi à Nourriture Fût, cet éditeur engagé, qui est vaillant dans ses choix éditoriaux, et grâce à la qualité graphique de l'ouvrage. Et puis ce livre, vous allez enlever les post-it, mais il est pour vous, évidemment, Edouard, qui auriez pu être un personnage de cette aventure.
Évidemment. C'est alors énorme. Ça, c'est sûr.
Merci
et moi, j'ai
beaucoup,
attaqué la lecture de ce récit graphique, et franchement, vous ne le lâcherez pas. Merci beaucoup, Elvira.
Merci. Ah ouais, c'est cool.
Vous savez. J'ai une mauvaise nouvelle. c'est qu'on doit déjà se quitter, ça passe tellement vite. Mmh. Mais on ne va pas se quitter sans un dernier petit coup de cœur de Bruno Bertheuil. C'est vous qui choisissez, Bruno. Vous voulez quoi?
Bah, j'aurais pu parler du saucisson du marin que j'adore.
Oui, alors saucisson du marin, c'est un très bon saucisson qui circule d'ailleurs et qui est d'origine normande.
C'est ça, c'est de Cannibarville. Ça a été inventé en 1932. C'est une sorte de notre copa normande. Mmh. Mais j'ai un petit coup de cœur sur ce que je mange tous les matins. Un yaourt au lait de jerseyaise. Alors, la jerseyaise, c'est une petite vache qui a le lait le plus riche, quasiment. Fin de lactation, on peut monter jusqu'à 70 grammes de matière grasse.
Et c'est une race normande, en fait.
C'est une race normande.
Jersey.
Anglo-normande, ouais. Oui. Même si, en Normandie, on a peu de troupeaux de jerseyaise. Donc là, c'est à Anneville-en-Bourville, de l'autre côté de l'eau, comme disait Edouard. Mais juste de l'autre côté de l'eau, quand on traverse le bac à Jumièges, à Ménis ou Jumièges, ou à Duclair. Et c'est des yaourts absolument incroyables.
Et ça donne un yaourt particulièrement onctueux, gras. Qu'en pensez-vous, les amis?
C'est merveilleux. C'est merveilleux de gras.
Et comment dire, la jerseyaise,
le cri du cœur de Jérôme Gagnès.
C'est le lait le plus riche qui existe.
Ah ouais, hein.
Donc une qualité beurrière incroyable.
Édouard,
La jerseyaise, en fait, ça fait 14 litres de lait par jour, une vache.
C'est pas beaucoup.
Les Primolstein, les noires et blanches qu'on voit partout, ça fait 28 à 32.
Bah oui.
Imaginez, donc en fait,
c'est pas le même lait.
C'est des petites vaches, elles sont magnifiques, elles ont du maquillage autour des yeux. Je sais pas si on définit ça par du rimmel, je suis pas l'as des as.
Un peu la tête de l'Aubrac, mais en plus petit.
C'est ça.
Avec une robe un peu plus foncée.
Vous aimez ou pas, Linda?
J'adore. Le gras, c'est la vie.
Et ouais. Le gras, c'est la vie.
Ouais. Ah, voilà, hein, ça peut faire une conclusion. Ça. Redonnez juste, avant qu'on se quitte, évidemment, les références de cette ferme.
Donc, c'est la ferme de la Martellerie de Céline et Olivier Ken à Anneville-en-Bourville. Et donc, ils sont trouvables sur le marché Saint-Marc le samedi et le dimanche. Et c'est la ferme des Tilleuls qui vient et qui s'arrange entre eux et qui vend les produits de la ferme de la Martellerie.
On a adoré ce moment avec vous. Merci, Bruno Bertheuil. Merci, Édouard Stalin.
Merci, merci.
La ferme des Ruffaux à Bouctot. Je viens vous voir, c'est promis.
Ah,
et très vite.
Plaisir.
Un grand merci, Linda Jumel. Le restaurant Léla, allez-y. Vous allez vous éclater et vous allez en plus voyager dans l'assiette avec des produits engagés et locaux. C'est formidable. Merci Elvira, merci Jérôme. Merci à la ville de Rouen, évidemment, pour son accueil. À l'office de tourisme local. Merci aussi à l'Opéra de Rouen pour son chaleureux accueil dans cette très très belle chapelle. Merci à France Inter pour les moyens techniques et l'organisation, Gaël Michel, Morgane Letac, Raja Boudni. Et puis, amis auditeurs et auditrices, la 10e masterclass dont va déguster arrive à grands pas et c'est la chef Stéphanie Lekelec qui sera dans notre fauteuil si vous voulez assister à l'enregistrement de cette émission en public qui aura lieu le jeudi 12 février à 10h30 dans nos studios de la Maison de la Radio. Envoyez-nous une demande de place à onvadéguster@radiofrance.com et vous recevrez un mail de confirmation. Attention, les places sont limitées. La semaine prochaine, eh bien, je vous laisse annoncer, Jérôme Gagnès, le menu de l'émission que nous allons faire ensemble.
La semaine prochaine, on va parler cépage avec José Vouillamos, qui est un très grand tempélologue suisse de l'université de Changin. On va parler de cépage, on va parler du futur de la viticulture, du futur du vin. Ça va être passionnant, on va goûter des choses incroyables.
Avec un grand monsieur.
Grand monsieur du vin.
Qui nous vient du vin. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.